Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de la grande tchatch, le rendez-vous politique du journal Le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Amal.
Avec nous pour cette émission, non pas un, mais trois invités, trois responsables régionaux des principales organisations syndicales de la SNCF. Tout d'abord François Tégédor, secrétaire général de la Fédération des cheminots CGT. Bonjour.
Bonjour.
Stéphane Crespin, secrétaire de l'Union régionale de l'UNSA Ferroviaire. Bonjour.
Bonjour.
Et Frédéric Michel, secrétaire régional Sud-Rail. Bonjour.
Bonjour.
C'est donc une spéciale réforme de la SNCF et mouvement social. Auparavant, messieurs, une tradition dans cette émission, c'est non pas le portrait de l'invité, puisque vous êtes trois, c'est autre chose, et c'est toujours Michel Guéraud qui s'y colle.
Reporters sans frontières vient tout juste de publier son rapport annuel sur la liberté de la presse dans le monde. Eh bien, après une lecture très attentive, je peux vous garantir que, pour cette émission, nous prenons bien plus de risques qu'un journaliste turc, chinois, égyptien ou nord-coréen. La preuve, plus courageux que des correspondants de guerre envoyés sur le front en Syrie, nous n'avons pas hésité à inviter des preneurs d'otages. Et trois, pour le prix d'un, s'il vous plaît, les trois responsables régionaux en PACA des trois principales organisations syndicales de cheminots qui prennent en otage les Français en menant une grève sans précédent. Je suis formel, mes sources sont sûres, j'ai vérifié l'info sur TF1, BFM TV, à la préfecture de police et auprès du ministère des Transports. Je dois donc le reconnaître, je n'emmène pas très large. Et si je ne craignais pas pour mon intégrité physique, je dirais même que je suis terrorisé. Allez, je me ressaisis. Courage et professionnalisme. Donc, nous recevons aujourd'hui François Tégédor, le secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots en PACA. Rendez-vous compte, la CGT, la première organisation de la SNCF qui ose chercher à faire converger les luttes. Nous accueillons aussi Stéphane Crespin, secrétaire de l'Union régionale de l'UNSA Ferroviaire. Là, c'est déjà un peu mieux. L'UNSA, arrivée deuxième aux élections professionnelles, peut être qualifiée, toujours selon mes sources, de réformiste. Mais méfions-nous quand même, un syndicaliste reste toujours un syndicaliste. Notre dernier invité, Frédéric Michel, est le secrétaire régional de Sud-Rail, le troisième syndicat de la SNCF. Alors là, face à ce jusqu'au boutiste, je ne regrette carrément pas d'avoir enfilé un gilet pare-balles. Un détail me chiffonne quand même. Pour des privilégiés, vous n'affichez pourtant aucun signe extérieur de richesse. Vous avez sans doute planqué dans le coffre de votre berline vos costards, vos Rolex et vos chaînes en or. Petit malin. Heureusement, on ne dupe pas aussi facilement l'élite du journalisme d'investigation.
Voilà, messieurs, vous avez droit à un commentaire à ce lancement à la sauce ravie, on va dire.
Ça vous laisse sans voix.
Le commentaire est simple. C'est effectivement, on est venu à pied, donc on a planqué nos voitures, mais non, il y a pas de particularité. C'est une bonne présentation.
Oui. Non, alors juste un mot, pas sur la chronique humoristique. Enfin, très bien léché là. Non, sur vraiment le lancement, le tout début, quoi, sur l'intitulé, quoi, réforme et mouvement social. Alors, je sais pas s'il y a que moi que ça gêne, mais j'ai un vrai souci avec ce terme de réforme. Parce que je suis plutôt attaché au sens des mots. Et pour moi, là, on n'est pas dans une réforme du système ferroviaire. On est vraiment dans une casse du système ferroviaire. Et ça fait malheureusement trop d'années qu'on doit se coltiner réforme après réforme, des choses qui n'en sont pas, mais qui visent au contraire à dégrader la situation actuelle.
Michel Guéraud. On va revenir sur le fond, sur les mots, sur les enjeux, pourquoi ce conflit, vos propositions pour réformer la SNCF, le service ferroviaire. Mais peut-être d'abord, l'actualité, les modalités d'action, une proposition qui est celle du Premier ministre de vous recevoir. Les syndicats qui n'iront pas continuer à négocier auprès de la ministre des Transports. Quel est le on est à quel moment là dans ce bras de fer entre le mouvement social et le gouvernement? Après, il faut le rappeler, à cette date, déjà 10 jours de grève.
Vous l'avez donné. C'est un bras de fer. Voilà, donc on est dans la partie dure du bras de fer où le gouvernement a joué le pourrissement justement de ce mouvement social avec miser sur un effondrement à un moment donné des pourcentages des grévistes. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'arrive pas à voir les chiffres officiels des pourcentages des grévistes, donc ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. Il y a des effets de communication. D'ailleurs, dans le monde, il y avait des graphiques qui étaient tracés avec un tassement de 3%. On aurait eu l'impression qu'il y avait plus de il y avait plus de tassement que ce qu'il y avait de grévistes, donc c'était particulier. Donc oui, on est dans le bras de fer. Il y a le Premier ministre qui cherche à désamorcer la bombe en proposant une rencontre. Mais bon, même y compris en proposant, en même temps qu'il propose la rencontre, il parle d'effacer la dette avec une contrepartie. Ça serait de faire payer les citoyens, alors que bon, c'est l'État qui doit assumer cette dette-là.
Alors, Frédéric Michel, le 7 mai, c'est la date qu'a proposé le Premier ministre. Pourquoi si tard, à votre avis?
Alors, je suis pas dans les agendas du gouvernement, mais effectivement, c'est tardif. C'est tardif parce que c'était une demande qui remonte quand même à plusieurs jours, sinon plus d'une semaine. Nous, on en a parlé ce matin, y compris au niveau Sudrail, en téléconférence. On pense que malheureusement, il s'agit plus d'un coup tactique du gouvernement, y compris sur la forme, de nous recevoir pas ensemble, puisque depuis le début de ce mouvement, on est quand même ensemble sur des revendications communes. Là, le Premier ministre fait le choix de nous recevoir séparément, avec y compris des représentants du patronat et des usagers. Il y a un vrai problème. Donc pour nous, on sent pas trop l'ouverture du gouvernement. On pense que c'est plutôt un coup tactique. Et dans ce coup tactique, le fait de recevoir les uns les autres séparément, précisément, ça permet de voir quels seraient éventuellement les points faibles des uns ou des autres et de pouvoir engager des négociations sur ces points-là. Mais pour Sudrail en tous les cas, mais je pense pas trahir les revendications communes, on est mobilisé depuis le 3 avril pour le retrait du pacte ferroviaire. Et ce qu'on entend aujourd'hui, ce qu'on attend du Premier ministre, c'est que il ouvre des négociations, ça on est effectivement très demandeur, mais dans le cadre d'un retrait du pacte ferroviaire. On ne va pas négocier, pour caricaturer, des miettes dans une défaite pour le service public ferroviaire et les cheminots. On veut pouvoir négocier un avenir pour le service public ferroviaire et les cheminots.
Stéphane Crespin, je le disais en mode satirique dans le portrait, l'UNSA, organisation réformiste, en tout cas elle est présentée comme ça dans la dite grande presse. Déjà, est-ce que vous reconnaissez dans cette définition? Et puis, est-ce qu'il y a, selon vous aussi, ce front pour l'instant unitaire syndical, il va tenir dans le...
Alors, il faut être très clair. D'abord, l'OS réformiste, on s'en réclame. C'est pas un sujet, mais réformiste, ça veut pas dire accepter n'importe quoi et n'importe quelle discussion. Réformiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est prêt à réfléchir sur des bases qui nous semblent les plus pertinentes. Aujourd'hui, on n'est pas dupes. Être reçu par le Premier ministre, c'est aussi être reçu par Elisabeth Borne. Hein. Vous avez noté au passage qu'elle sera présente. Or, ce qu'on dit depuis le début et sur le front unitaire,
Elisabeth Borne, c'est la ministre.
C'est la ministre des Transports en charge du dossier. Là, ce qu'on dit depuis le début et sur le front unitaire, c'est bien que les décisions sont prises à un niveau qui nécessitait la rencontre avec le Premier ministre. Pour autant. Nécessiter une rencontre, c'est pas pour autant écouter ce qu'a à nous dire le Premier ministre, mais c'est aussi avoir une vraie négociation, une vraie discussion de fond sur le dossier. Et la discussion de fond, elle va reprendre tous les sujets qu'on va certainement évoquer dans cette émission.
Alors, le projet de loi est passé en première lecture à l'Assemblée nationale. Le gouvernement menace d'agir par amendement. Il accepte néanmoins de recevoir les syndicats. Frédéric Michel, c'est quoi? C'est un débat, un faux débat? C'est...
Nous, on a quand même l'impression que le gouvernement...
On a l'impression qu'il joue le pourrissement de la situation. Hein.
En fait, aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement se comporte comme n'importe quel DRH se comporterait dans l'entreprise vis-à-vis des représentants syndicaux ou des salariés. Il ne s'agit pas de créer les conditions d'une négociation. Il se borne, en fait, à essayer de nous expliquer leur soi-disant réforme. Alors le problème, c'est qu'on l'a très bien compris, chaque organisation syndicale a fait un travail sur le premier rapport Spinetta, sur la deuxième version, a donné des contre-propositions au gouvernement, et on en est toujours au stade où quand on est reçu par la ministre des Transports, ou probablement le 7 mai par le Premier ministre, on va nous expliquer... le sens de leur projet. Mais on l'a très bien compris, le sens de leur projet. C'est même pour ça qu'on est en grève depuis le 3 avril, quoi. Donc ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est qu'ils tiennent compte de nos revendications, de la colère des cheminots, du rapport de force qui s'installe, et surtout d'envisager une autre voie pour le service public ferroviaire.
François Tégédor, avant de venir sur le fond des raisons d'un conflit, toujours les modalités d'action. Est-ce que vous ne regrettez pas à cette date cette grève perlée, qui est une première quand même comme modalité d'action? Est-ce que malgré tout, il n'y a pas une forme d'essoufflement, et est-ce qu'il faudrait pas, est-ce qu'il n'y a pas un débat entre vous sur la nécessité peut-être d'aller plus fort, d'aller plus vite, des grèves reconductibles, d'autres modalités d'action?
Il n'y a pas de débat sur la modalité de l'action. D'abord, la CGT a comme coutume de mener les combats d'une manière traditionnelle avec des grèves reconductibles. Ce coup-ci, on a beaucoup échangé avec les cheminots et ils nous ont dit voilà, il faudrait par l'expérience des actions passées innover et inventer une nouvelle forme d'action qui nous permette de durer, parce qu'on sait bien que les gouvernements successifs ont misé sur se sont adaptés à ce type d'action. Il faudrait autre chose. Donc, d'ailleurs, les assemblées générales dès le départ ont validé cette démarche-là à l'unanimité. Donc, on est sur une modalité qui est acceptée par les cheminots. Et aujourd'hui, on se retrouve avec, grâce à ce modèle-là d'action, avec des cheminots qui se projettent sur une action qui, si elle doit durer et mener le débat jusqu'au bout. Fred l'a dit, on se retrouve avec la question du service public. Et les cheminots sont conscients de ça. Et à partir du moment où on a réussi à installer ce nouveau modèle-là, qui est nouveau pour tout le monde, hein, y compris nouveau pour nous, et il tire beaucoup de ressources, y compris de l'ensemble des militants. Mais aujourd'hui, les choses sont ancrées, le débat est bien installé sur la question du service public d'une manière fondamentale. Fred l'a dit, il y a des propositions qui ont été faites, et la CGT a fait une proposition de 45 pages où on développe toute la question du service public et là où on nous a mené. Il y a la question environnementale qui est posée dans tout ça, et tout ça c'est mesuré par les cheminots, et l'action est bien établie sur ce modèle-là, et il y a peu de débats autour de est-ce qu'on change de mode d'action ou pas, c'est ancré dans les têtes.
Stéphane Crespin, dans le portrait, enfin le lancement, on parlait en mode satirique de la question de la prise d'otage, c'était une référence aussi à cette bataille de l'opinion, hein, parfois un traitement médiatique, mais est-ce que là aussi vous n'êtes pas inquiet sur la capacité à entraîner les Français derrière votre bataille? Comment vous sentez les choses?
Inquiet, non. Forcé de constater que depuis 20 ans, le SNCF bashing existe. Donc les cheminots l'ont vécu et aujourd'hui, il y a une forme de ras-le-bol et de frustration des cheminots de ne pouvoir expliquer réellement ce qu'est leur travail, l'évolution de l'entreprise, etc. Donc ce travail-là, on l'a amorcé certes un peu tardivement, mais aujourd'hui, on a le sentiment que se développe au sein de la population un mouvement non pas de sympathie mais simplement d'accompagnement de ce que pourraient être d'autres réformes qui devraient suivre celles de la SNCF. Et c'est un peu ça la bataille de l'opinion. Non, on n'a pas le sentiment de l'avoir perdu, bien au contraire.
Le pouvoir d'achat des cheminots commence à se faire sentir, la grève sur le pouvoir d'achat des cheminots. Vous avez fait une collecte, pour l'instant c'est plutôt positif puisque j'ai lu quelque part qu'il y avait quand même plus de 800 000 euros qui ont été collectés au niveau général.
Il y a plus. Les 800 000 euros dont vous faites référence, c'est ceux qu'ont collecté l'association des artistes. Ouais. Il y a dans l'organisation encore plus d'argent. On n'a pas encore évalué le nombre puisqu'il y a une association qui a été créée sous l'égide des quatre organisations syndicales représentatives au niveau national. Ils vont collecter l'ensemble de ces fonds et les redistribuer. D'ailleurs, ces fonds-là dont vous faites référence, c'est quand même un marqueur important puisqu'on n'avait pas encore démarré la grève, que l'argent a afflué. Afflué par des chèques, des dons. Quand on est dans les gares, Stéphane le disait, on n'a pas l'impression d'avoir perdu la bataille de l'opinion publique. Pourquoi? Parce que quand on est dans les gares, les jours de grève, etc., qu'on a des rassemblements, les gens nous interpellent, les usagers nous interpellent, viennent nous dire qu'ils nous soutiennent et en plus nous donnent des chèques. Donc on voit bien que si on n'avait pas l'opinion publique avec nous, on n'aurait pas cet élan de solidarité qui est hors norme. On n'a jamais connu, c'est la première fois qu'on connaît cette méthode-là.
Frédéric Michel, un mot peut-être aussi sur un autre enjeu, toujours dans les modalités d'action, c'est-à-dire celle de la convergence des luttes, cette envie de faire converger les luttes pour se faire entendre par rapport à des politiques finalement qui touchent à des enjeux communs, et aussi... la nécessité ou pas, et les modalités qui sont interrogées, sur le fait d'entraîner aussi des partis politiques. Alors on a vu à Marseille la manif avec la CGT, avec Sud et tous les organisations syndicales, mais autour du mot d'ordre de Stop Macron un week-end, et les Insoumis aussi de Mélenchon. Il y a un mot d'ordre aussi pour le 5 mai d'une fête à Macron. Comment vous regardez tout ça, convergence des luttes et peut-être convergence vers les modalités peut-être plus politiques d'interpellation du gouvernement?
Alors, juste un mot, et c'est peut-être un petit point de divergence qu'on peut avoir au niveau syndical, sur les modalités elles-mêmes aujourd'hui de mobilisation des cheminots. On est effectivement aujourd'hui sur un mouvement qui est majoritairement suivi sur les modalités de 48 heures. Hein, c'est une réalité. Il y a aujourd'hui un maximum de cheminots qui se reconnaissent dans ce type de grève et qui y sont. Nous, à Sudrail, on n'a pas fait mystère que par rapport à l'intransigeance et la rigidité du gouvernement, il fallait peut-être, à un moment donné, mais encore une fois, c'est pas Sudrail qui a la science infuse, ce sera aux cheminots de le décider, peut-être durcir ce mouvement. Là, aujourd'hui, sur la période, on pense qu'il faut effectivement arriver, un, à maintenir l'unité syndicale, ça nous paraît essentiel, deux, à maintenir cette unité des cheminots, mais il y a quand même des cheminots, moi j'en rencontre quand même pas mal, qui sont en train de se dire est-ce que vraiment on va gagner avec cette stratégie. Donc ça fait partie d'une guerre d'usure, François l'a rappelé, on est effectivement sur un bras de fer au long cours, sauf que à un moment donné, on ne s'interdira pas, si des assemblées générales le souhaitent, d'accompagner nous, avec notre outil syndical, sur des grèves qui iront au-delà des 48 heures.
Frédéric Michel, la grève perlée, pour résumer, c'est de l'opposition ou c'est de la contestation courtoise? Pour vous, il faut une grève totale?
Non. Pour moi, il faut, en gros, ce que les cheminots auront décidé. Aujourd'hui, les cheminots ont décidé, à une écrasante majorité, de suivre ces modalités proposées de 48 heures de grève. Donc c'est un fait, mais il y a effectivement une partie de cheminots, quelles que soient les organisations syndicales, hein, moi j'en rencontre tout le temps, ou non syndiqués, qui sont en interrogation. Et c'est légitime, un mois après le début du mouvement, de se dire, est-ce qu'on suit la bonne stratégie? Donc nous, à Sudrail, on insiste beaucoup sur les taux de grévistes qui sont très importants, mais surtout sur la participation aux assemblées générales. On part du principe que pour gagner cette grève, il faudra vraiment que ce soit une grève dont les cheminots se soient emparés, et y compris qu'ils puissent la contrôler. Et j'en viens à la question que vous posez sur les convergences, parce qu'elle est liée à ça. Il y a des difficultés manifestes pour favoriser cette convergence des luttes à travers le calendrier des 48 heures. Hier, on a fait une action de convergence avec les postiers à Saint-Just qui occupaient le centre de tri. Vendredi, toujours à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, il y a les finances publiques qui seront en grève et qui vont occuper la trésorerie de Saint-Barnabé. Bah, manque de chance, vendredi 27, ce n'est pas dans le calendrier préétabli. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on y va quand même ou bien on n'y va pas en leur disant bah écoutez, excusez-nous, ça tombe pas sur une date. Donc voilà, il y a des limites aujourd'hui. Enfin, le fait que ce soit une décision majoritaire d'être sur les 48 heures validée par les AG, c'est indéniable. Après, il faut surtout pas être dogmatique et se dire qu'on va gagner avec ça, il faut aller jusqu'au bout. Il faut laisser cette grève vivre, les cheminots décider, et éventuellement, on va pouvoir faire autre chose. Le dernier point très rapide sur les convergences syndicats politiques, c'est intéressant. L'initiative qui avait eu lieu à Marseille le 14 avril est une initiative de l'UD-CGT.
Oui.
L'UDCGT lance aux syndicats et élargit aux associations et aux organisations politiques. Et évidemment, chacun avec ses particularités, son champ d'autonomie, etc. Donc, nous, on pense que oui, c'est important, qu'il y ait aujourd'hui, parce que la grève ne concerne pas que les cheminots et leur statut, ça concerne un vrai projet de société et un modèle social, donc ça nous choque absolument pas si chacun reste dans son rôle, qu'il y ait des convergences syndicales, associatives et politiques. Après, bon, voilà, moi, c'est ma position personnelle est partagée sur Sudrail PACA sur le 5 mai. Voilà, on trouve que c'est quand même un peu maladroit, à 4 jours d'une initiative du 1er mai qui existe quand même depuis la fin du 19e siècle, que l'initiative de Ruffin, voilà, soit mise le 5. On pense que ça aurait pu être quelque chose qui renforce plutôt le 1er mai que de faire quelque chose 4 jours après. Voilà.
Stéphane Kreisberg, les fêtes à Macron, les stops Macron, cette politisation du conflit, c'est pour vous, c'est un souci?
Enfin, c'est un souci. Non, c'est pas forcément un souci. Ce qui, enfin, l'UNSA Ferroviaire, je pense que on cherche avant tout ce qui nous rassemble aujourd'hui sur ce dossier et pas ce qui nous divise. Le côté politique, il est évident que c'est pas l'UNSA Ferroviaire qui va faire venir ou qui va lier les sujets politiques et le sujet qui nous amène aujourd'hui. Mais pour autant, j'allais dire, l'intérêt, c'est d'avoir une vraie base de travail qui soit commune. Si toutefois des organisations syndicales souhaitent il y ait des politiques, pourquoi pas? C'est pas forcément quelque chose qui nous rebute.
François Tégédor, alors le calendrier va pour l'instant jusqu'au 28 juin. Guillaume Pépi, patron de la SNCF, déclaré, je cite, qu'il n'y aura pas de grève cet été, car les cheminots sont des gens responsables, le trafic sera en amélioration, la grève s'érode lentement, je cite toujours, hein, évoquant un taux de 60% parmi les conducteurs, contre plus de 77% au début. Alors ça, c'est de l'esbrouf?
Bon, écoutez, déjà pour PACA, on va parler PACA. Les conducteurs à 93% de grévistes, les contrôleurs à 96%. Alors pour un mouvement qui s'érode dans les...
En même temps, c'est une bagarre de chiffres, hein, chacun voilà, pourra...
Non mais nous c'est quand on vous donne ces chiffres-là, c'est les chiffres des camarades sur le terrain. Quand il y a que 4 mecs qui vont bosser, il y a que 4 mecs qui vont bosser, quoi. Donc ça c'est pas une bataille de chiffres, c'est le constat. Après, il y a des cheminots qui s'adaptent à tout ça, parce qu'il y a des petits salaires, etc., et ça peut s'adapter. Par contre, la question de... C'est pas Guillaume Pépi de nous dire ce qu'on doit faire.
Vous êtes déjà en responsable, donc l'été, il n'y aura pas de grève. Ah, écoutez, il a l'air assez sûr de lui
alors,
là-dessus. Hein.
Nous, sur le coup, là, responsable, oui, on l'admet, on est responsable, on assume bien notre rôle. D'ailleurs, la mobilisation telle qu'elle est, c'est pas sorti la cuisse de Jupiter, c'est été, je vous l'ai dit, décidé avec les cheminots. Et après, c'est qui nous parle? C'est quelqu'un qui, président de la SNCF, qui s'est mis à militer pour une réforme qui va détruire le service public. Donc la personne qui nous traiterait d'irresponsable si on ne faisait pas ce qu'il a décidé, c'est lui-même qui nous a mis sur le terrain du politique. Donc on n'a pas trop de leçons à recevoir de Guillaume Pépi.
Alors Frédéric Michel, on l'avait presque oublié, mais les syndicats ont des propositions, une plateforme de propositions à faire au gouvernement. On peut peut-être les détailler?
Oui, sur cette plateforme, il y a 8 points revendicatifs. Bon, sans égrener forcément les 8 points, il y a 4 points qui sont relativement importants et de notre point de vue incontournables. Le premier, il concerne la dette. La dette qui est faussement estampillée dette du système ferroviaire, pour nous c'est une dette publique qui doit revenir à l'État. L'ensemble de l'histoire de cette dette depuis la création de la SNCF en 1937 avec des compagnies privées qui vont demander à ce que le réseau soit nationalisé parce qu'elles sont au bord de la faillite, c'est une réalité. Donc en 1937, la SNCF se crée avec déjà une dette à l'époque de 30 milliards de francs donc de l'époque, hein, puisque le réseau a été largement déficitaire avec la gestion très capitaliste de ces compagnies privées. Puis on a eu la période tout TGV qui a contribué à la dégradation du réseau classique. Et puis aujourd'hui, enfin depuis grosso modo le début des années 2000, on a quand même un État qui demande des constructions de lignes nouvelles sans en apporter le financement. Donc la SNCF en fait est obligée de faire ses réalisations en s'endettant. Et aujourd'hui, c'est pas faux de dire, il me semble, que la SNCF est devenue une vraie rente pour les banques. Le chiffre qu'on a cité plusieurs fois, compte tenu de la dette et des intérêts de la dette qui pèsent sur la SNCF, c'est que pour que la SNCF...
Les intérêts de la dette pour les auditeurs, c'est 1,5 milliard.
Tout à fait. Mais un chiffre qui va parler aux auditeurs aussi, c'est qu'aujourd'hui, pour que SNCF Réseau puisse engager 100 euros de rénovation sur le réseau, d'accord, 100 euros, eh ben, il faut qu'elle en emprunte 243. C'est-à-dire que si effectivement elle a 100 euros, il y a 41 euros qui vont aller sur le réseau et 59 euros qui vont aller aux organismes financiers. Donc il faut qu'on sorte de ça. Donc ça, c'est la dette, c'est le premier point. L'État doit la reprendre.
On va peut-être enchaîner sur les autres points.
Bien sûr.
Sinon, ça va être
un peu long.
Mais oui.
Non, mais voilà, il faut qu'ils la reprennent sans contrepartie ni chantage. Parce que pour revenir à votre question du 7 mai, on sent bien que les dés sont un peu pipés, que effectivement il pourrait y avoir peut-être une annonce sur la dette en partie, on ne sait pas quand.
Mais justement, peut-être Stéphane Crépin, à propos de, alors c'est peut-être un chantage, vous allez dire, ou en tout cas une contrepartie. Le gouvernement dit la dette, on va la reprendre à partir de 2020, mais à condition que notre réforme vous l'acceptiez. Et en particulier, un point qui est central pour ce gouvernement, c'est la question du statut des cheminots. On l'a dit aussi de façon satirique en début d'émission. Il y a cette accusation explicite, implicite, etc. Vous êtes des privilégiés et votre statut pèse sur la situation de l'entreprise et sur cette dette.
Oui, alors il faut savoir de quoi on parle. D'abord, et là pour le coup, c'est pas les organisations syndicales qui parlent, mais bien les analyses économiques qui nous donnent un chiffre en gros de 8% dû au statut, hein, de 8% de global de l'endettement. Bon, il faut savoir quoi ? Il faut savoir qu'aujourd'hui le sac à dos social, c'est un peu ça. C'est demain on arrête et on fait ce chantage complètement illogique de je reprends la dette, alors que la dette, bon, elle appartient à l'État, hein. La SNCF est un EPIC, elle appartient à l'État, c'est pas la dette des cheminots, et en contrepartie, et eh ben le statut s'arrête, ok, il s'arrête, bon, pourquoi pas, mais la question c'est pas celle-là, c'est qu'est-ce qu'on fait en termes de sac à dos social, des gens qui sont à statut aujourd'hui, qui n'auront pas d'autre avenir, qui aujourd'hui ne plombent pas les résultats de l'entreprise, qui voilà, et puis je crois qu'il, ce travail a déjà été effectué auprès du grand public. Le cheminot aujourd'hui n'est pas un anti, vous l'avez dit sous forme de boutade lorsqu'on est arrivé, mais non, on ne possède pas tous des voitures de luxe et on n'arrive pas avec des Rolex au bras, pour reprendre certains termes de président. Donc non, aujourd'hui les cheminots sont pas des nantis, il n'y a pas de raison particulière à enlever la dette, et la vraie question c'est le sac à dos social, c'est qu'est-ce qu'on met dans le sac à dos social.
François Taillé-Dor, malgré tout, l'emploi à vie, certaines conditions qui sont celles des cheminots qui ont été acquises de longue lutte, par rapport à l'état social du pays et la dégradation en particulier dans un certain nombre de professions, vous le savez bien, la CGT, la Confédération, est-ce que vous ne craignez pas que l'opinion publique soit sensible à cet argument de « ils sont privilégiés hein, », je reviens là-dessus puisque ça revient souvent en boucle.
Mais écoutez... Depuis que cette campagne anti-cheminot a été lancée, l'opinion publique s'est pas détournée de nous. Pourquoi ? Parce que quand on regarde concrètement ce que font les cheminots et la compensation qui leur est accordée pour faire cela, on voit bien qu'il n'y a pas un écart qui est démesuré, déjà d'une part, et deuxièmement, l'écart est largement justifié. Et puis on a l'impression souvent qu'on parle du chemin de fer comme si on parlerait d'une petite épicerie du coin. Le système ferroviaire, c'est un système très technique, hein, où on a besoin de techniciens, on a besoin de professionnels pour pouvoir le faire. À un moment donné, quand on donne certaines garanties de l'emploi, on donne aussi on cherche aussi une fidélisation des techniciens pour pas être obligé à chaque fois de reformer, parce que former ça coûte cher. Il y a certains techniciens, il faut trois ans de formation pour qu'il acquiert le métier, pour que le gars puisse déjà lui tout seul aller sur le terrain. Donc on voit bien qu'au-delà des mots d'incantation, etc., il y a une problématique qui serait posée à toute entreprise qui voudrait faire du système ferroviaire, et ça se fait pas comme ça d'un coup de cuillère à peau. C'est assez complexe, et c'est tout ça qui fait que on a ces contreparties là. Ce ne sont pas des privilèges. Quand on regarde bien, alors souvent on nous sort la question des facilités de circulation. Je suis désolé, nous produisons quoi au chemin de fer ? Nous produisons du voyage, alors on nous rend un petit peu du voyage. C'est comme si à un agriculteur qui produit des tomates, on lui reprocherait de manger ses propres tomates, hein, ou un électricien de faire l'électricité chez lui quand il fait sa maison. C'est scandaleux.
Rapidement sur la dette, je crois que la CGT avait une proposition un petit peu originale. Reprise intégrale de la dette par l'État avec la création d'une caisse d'amortissement qui serait financée par, je cite, la nationalisation des autoroutes. C'est pas trop dans l'ADN de ce gouvernement quand même.
Ben, c'est pas trop dans l'ADN du gouvernement. L'ADN du gouvernement, c'est surtout d'arriver et de filer les pans entiers de ce qui rapporte pour gaver des actionnaires. Ça on l'a bien compris. Sauf que on peut pas gérer un pays comme une start-up ou une PME, quoi.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi en direct sur Radio Grenouille. On parle de réforme de la SNCF ou de casse, réforme pour les uns ou casse pour les autres. Michel Guéraud.
Oui, Frédéric Michel, peut-être, je ne sais pas, ça fait partie des 8 points, mais il y a un enjeu aussi environnemental, écologique, enfin, sur la question du train et du rail. Peut-être rappeler que l'État finance 100% des routes, et là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Est-ce que ça, c'est débattu, ces questions-là ? Est-ce que vous arrivez à faire passer ce message ?
Bah, on essaye en tout cas, aussi bien en ce qui concerne le trafic voyageur que le trafic fret des marchandises, hein, qui est vraiment sinistré aujourd'hui du fait des différentes réformes ou casses de l'outil fret ferroviaire. Oui, on en parle. Et aujourd'hui, y compris dans le prisme concurrentiel qui est celui de ce gouvernement, quand on dit que la SNCF coûte cher, c'est qu'en fait, ce qui coûte cher, c'est effectivement le réseau. Et quand ce réseau pour le transport routier en fait est pris en charge par l'impôt des citoyens, on comprend bien déjà là qu'il y a une forme de concurrence déloyale. C'est évident. Donc nous aujourd'hui, on est effectivement sur cette dimension, on est sur une dimension sociale déjà du service public ferroviaire, sur une dimension économique aussi bien au niveau voyageur que fret, mais on est aussi sur cette dimension écologique. Et ce qu'on dit au gouvernement et ce qu'on explique aux usagers et qu'ils comprennent assez bien finalement, hein, c'est que il n'y aura pas de service public ferroviaire, de véritable système ferroviaire au service du public, pour le dire autrement, sans une vraie volonté politique. Et qui dit volonté politique, dit à un moment donné, on arrête le théâtre de Grenelle, etc. On décide véritablement, avec des décisions et des financements à la clé, de favoriser le train. C'est radicalement pas ça aujourd'hui, quoi, qui est en jeu.
En même temps, décembre 2019, ouverture à la concurrence. Concrètement, à partir de cette date, les opérateurs autres que la SNCF pourront se porter candidats à l'exploitation de certaines lignes nationales ou régionales. Donc, forcément, le service public, comme on l'a connu, c'est fini.
Eh ben non, c'est pas fini, parce que précisément dans la façon dont vous posez la question et l'intitulé, il y a une anguille. En 2019, la concurrence n'est pas obligatoire. D'accord. La concurrence s'est ouverte en fait pour le trafic fret depuis 2006 et au niveau international également.
On reviendra là-dessus tout à l'heure.
Voilà. Mais en ce qui concerne l'ouverture à la concurrence pour le trafic régional et national, c'est sous forme de préconisation de la Commission européenne et surtout le caractère obligatoire ne concerne que les appels d'offres. Donc effectivement, les autorités régionales des transports, comme au niveau national, vont être tenues de recourir à des appels d'offres. Mais qui dit appel d'offres dit qu'à un moment donné, n'importe quelle autorité régionale ou nationale va dire, bah écoutez, nous on a fait l'appel d'offres, on a vu les propositions de chacun, on a vu ce que ça coûte, on a vu les services et la sécurité ferroviaire qui sont en jeu, et on fait le choix de continuer avec la SNCF. C'est l'un des 8 points de la plateforme revendicative, c'est de dire, il n'y a pas aujourd'hui, malgré l'enfumage politique et médiatique, d'obligation de concurrence. Est-ce que vous connaissez la date du premier appel d'offres sur le réseau Île-de-France ?
Non.
2039.
D'accord. Voilà. Mais alors, il se trouve que nous sommes en PACA et qu'en PACA, le président de la région, Renaud Muselier, LR, a dit, ben moi, je veux y aller et il veut précipiter les choses. Et donc, il a même déjà lancé un appel à projet, enfin, à projet... je sais pas comment dire.
Appel à la manifestation d'intérêt.
Voilà. Et donc, il y a 10 opérateurs qui ont répondu, 2 Italiens, 2 Allemands, 1 Britannique. Donc, les choses s'enclenchent et là, dans la région, on a une vraie volonté politique de solutionner, dit-on, les problèmes de service aux usagers de train dans la région en recourant au privé. Votre réaction ?
Ah ben, la réaction, elle est simple. Déjà, pour faire cet appel à manifestation d'intérêt,
le conseil... François Tégédor.
Oui, François Tégédor. L'appel à manifestation d'intérêt, le conseil régional a budgétisé 300 000 euros pour que juste un opérateur vienne se déclarer intéressé par une des trois lignes qu'ils ont mis en appel d'offres. Eh ben, il y a 300 000 euros, donc ils se sont répartis 300 000 euros d'argent public juste pour se déclarer. Donc on voit bien la volonté qu'il y a derrière. C'est qu'on ne veut pas donner de l'argent pour le service public. Par contre, dès qu'il s'agit de régaler un petit peu de l'argent comme ça pour idéologiquement implanter des mots d'ordre, ça on sait le faire. Après, sur la question de l'ouverture à concurrence ici à MPACA, on a un réseau qui est saturé. La gare Saint-Charles est saturée, on ne peut pas y mettre un train dedans, pas plus un train. D'ailleurs, il y avait, avec l'ancienne majorité du conseil régional, une volonté d'aller jusqu'à 700 trains jour. On a été obligé de réduire à 600 à cause de l'infrastructure, et aujourd'hui on a 542 parce que c'est pas trop la volonté du conseil régional d'aller vers sur du service public et puis aller sur des modes idéologiques un peu différents et mettre un peu plus du bus. Donc on voit bien là cette volonté politique et uniquement politique de se soustraire au service public juste pour se faire plaisir. La question de l'ouverture à concurrence, comment on va faire pour, voilà, à 8h01 il passe un train, à 8h02 il passe un autre train, comment on va faire pour mettre les trains de la concurrence là-dedans? Sauf à nous dire, eh ben, on va réduire le service public tel qu'il est aujourd'hui pour pouvoir permettre aux autres de passer. Aujourd'hui, il y a un train qui circule qui s'appelle Tello, qui rentre donc de l'Italie à Marseille, et ce train est tout le temps vide parce que les usagers, ils attendent pas d'avoir d'autres trains. Ils veulent que le service public tel qu'il est aujourd'hui soit meilleur. Et là, on est en train de donner un service public qui est moins bon et lié principalement à l'infrastructure. L'ouverture à la concurrence, ça va pas régler les problèmes d'infrastructure. D'ailleurs, même y compris, on s'étonne que ce conseil régional se félicite du rapport Spinetta qui va transférer les petites, la gestion et le financement et la rénovation des lignes dites les petites lignes. Donc ils vont récupérer, en plus déjà d'une facture qu'ils trouvent trop chère pour faire le service public, ils vont récupérer l'entretien de ces petites lignes, etc., qui demandent un gros entretien, un gros investissement, et ils se réjouissent de ça, alors que déjà ils n'ont pas les moyens. Donc on voit bien qu'il y a un anachronisme dans leur propos.
En même temps, les conseils généraux au niveau national, régionaux, pardon, dépensent chaque année quelques 3 milliards d'euros pour subventionner des lignes qui par nature sont déficitaires. Faut bien à un moment donné arrêter, non ?
Mais la question du la question du déficit, sur quoi on se base ? Sur quoi on se base ? Quand on développe des routes, on se pose pas la question, on fait des investissements sur 30, 40, 50 ans et on se pose pas la question. Et quand c'est le système ferroviaire, d'un coup il faudrait se poser la question, il faudrait l'amortir à 2 ans ou à 3 ans, mais c'est scandaleux. Quand on fait un investissement pour une ligne, on la rénove et on part sur un investissement qui est à long terme, puisque c'est un investissement pour l'avenir, pour développer. On est en déficit d'infrastructure ici en PACA d'une manière très importante. D'ailleurs, il y a des rapports qui disent on a 20 ans de retard. Et là, qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose qu'on va mettre tout en concurrence et on ne va pas donner de lisibilité à long terme pour pouvoir développer.
Alors Stéphane Griezmann, peut-être il y a au moins un point qui peut peut-être vous mettre d'accord avec le gouvernement ou les autorités politiques régionales, c'est le constat, alors vous n'aurez peut-être pas les mêmes explications, d'une dégradation du service, et je pense au niveau régional, tous les gens qui empruntent les TER sont forcément confrontés à des retards, à des annulations, à des...
Je crois que c'est le cœur du problème.
Et du coup, il y a l'argument selon lequel ça marche pas, donc il faut que ça change, et donc pourquoi pas le privé, ça sera mieux. Enfin, c'est ça qui peut-être peut faire passer la pilule.
Oui, mais c'est exactement ce que disait François Tégédor à l'instant. C'est que la difficulté du transport ferroviaire aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'un transport ferroviaire, ça peut pas être rentable au sens du lexique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre rentable un investissement qui est lourd d'un service public. Donc si demain, on considère que l'ouverture à la concurrence était la solution, mais elle ne le sera pas. Pourquoi ? Parce que le service ne sera pas amélioré pour autant. C'est pas parce que demain vous allez avoir plusieurs transporteurs sur la même infrastructure qui nécessite des investissements que nous n'aurons pas dans ces solutions présentées, que pour autant ça va améliorer le service. Donc le service au client, il faut bien se le mettre dans la tête, ne va pas être amélioré par l'ouverture à la concurrence. En réalité, et c'est bien le reproche qu'on fait aux organisations syndicale généralement, c'est que on nous reproche d'être dogmatique, mais j'ai bien l'impression quand même qu'à travers ces prises de position d'autorités organisatrices, ce sont les autorités organisatrices qui sont dogmatiques. Ils ne veulent plus de la SNCF, et c'est bien ça le sujet. C'est pas l'amélioration du service offert.
Michel, Frédéric Michel pour Sud. L'exemple, la vache sacrée du gouvernement, c'est la Deutsche Bahn, c'est le modèle allemand. Là-bas, c'est devenu une société anonyme de droit privé, entièrement détenue par l'État néanmoins, qui transporte marchandises et passagers tout en se chargeant du réseau, donc la Sainte Trinité. Plus d'un quart des lignes allemandes sont néanmoins exploitées par des opérateurs privés, et ça semble plutôt bien marcher, puisque la dette est expurgée, le gouvernement l'a expurgée. La fin des statuts d'agent public, ça c'est un fait, et il y a eu très peu de fermeture et ça marche plutôt bien au niveau régional.
Il y a quand même pas mal de transferts du ferroviaire vers le bus. Hein. Camarades allemands qui viennent régulièrement sur Marseille avec qui on échange précisément sur ces questions-là, il y a quand même eu une contraction de l'offre ferroviaire. Et comme vous l'avez dit, il y a quand même eu donc ouverture à la concurrence, avec dont la SNCF, hein, avec qui concourt là-bas avec Keolis et qui a remporté des marchés pour faire vivre.
Là, par contre, les syndicats se sont pas immolés que la SNCF aille concourir chez les confrères.
L'immolation fait pas partie. vraiment, c'est pas un outil qu'on a tous les jours. Quand on est plutôt pour faire des formes d'action différentes que l'immolation, en fait. Non, mais ceci dit, pour reprendre les arguments, en fait, je voudrais pas faire trop chiant et trop théorique, mais on parlait de dogmatisme. Mais c'est quand même ça aujourd'hui qui est à l'œuvre. On a des libéraux, hein, qui sont quand même à la tête de l'Europe et des nombreux gouvernements, qui fonctionnent avec le ferroviaire comme dans n'importe quel autre secteur. Hein. Donc on a vu l'énergie, on a vu les postes, etc. Donc nous, on a une première opposition, c'est de dire techniquement, le système ferroviaire ne peut pas être assimilé, y compris jusqu'à l'électricité, quoi. Parce que dans les flux, il y a des gens qui circulent dedans, et il y a des contraintes technologiques très fortes du système ferroviaire, où il vaut mieux que ce soit la même personne qui gère à la fois le réseau et les mobiles qui circulent sur le réseau. Ça on y tient. On n'est pas dans l'aérien, on n'est pas on est sur une contrainte technologique très forte qui n'est pas assimilée aujourd'hui par ceux qui prennent les décisions. Ensuite, sur l'ouverture à la concurrence, encore une fois, elle n'est pas inéluctable, c'est un vrai choix politique. Et nous, ce qu'on dit aujourd'hui, mais c'est ce qui a déjà été dit, c'est que cette ouverture à la concurrence, on l'a fait miroiter comme quoi ça pourrait améliorer le service, etc., baisser les prix, etc. Mais c'est faux. Et ce que je voudrais faire remarquer, c'est que on parle d'ouverture à la concurrence essentiellement au niveau opérateur. Alors qu'il y a trois niveaux, hein, il y a le niveau du réseau, il y a le niveau de ceux qui font circuler sur le réseau, et il y a ceux qui y circulent effectivement. Et donc là aujourd'hui, le gouvernement dit en gros, avec un chantage à la clé, en ce qui concerne le réseau, ben grosso modo, on va voir comment on reprend la dette, etc. Donc c'est quand même une socialisation des pertes. Et par contre, on va offrir la partie rentable, profitable, à des privés qui vont venir sur les lignes, etc., faire circuler leur train. Donc la première objection, c'est, elle est vraiment d'ordre technique, technologique. On prend des risques avec la sécurité ferroviaire en faisant en sorte que celui qui gère le réseau ne soit pas le même que celui qui circule. C'est ce que comprennent un peu tard, mais ils le comprennent bien, les Britanniques aujourd'hui. Et la deuxième objection, c'est de se dire, ne faisons pas rentrer la loi de la rentabilité sur quelque chose qui finalement, on le sait, n'est pas rentable, mais se définit essentiellement comme un service rendu à la collectivité.
Michel Guéraud.
À l'époque où Emmanuel Macron avait encore une carte au Parti Socialiste, il avait mis en place une réforme, on avait appelé ça les bus Macron. Et d'ailleurs, la SNCF y est aussi, c'est 8 bus.
Oui. Non, on peut en parler.
Oui, bah justement, est-ce qu'il y a une forme de cohérence finalement
Le terme global, c'est la question économique. On va la donner, la question économique. Les 8 bus, par exemple, 35 milliards de chiffre d'affaires, 35 milliards de déficit. Donc, vous avez vu une entreprise qui fait autant de déficit que de chiffre d'affaires et qui reste ouverte. Donc, on voit bien qu'on est sur un dogme parce que ces chiffres-là, personne ne vous les donne. Voilà. Tout à l'heure, ça a été donné 1,7 milliard d'intérêts de la dette. Mais qui accepterait, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il faudrait injecter 1 milliard, qui accepte de continuer à payer 1,7 milliard? C'est vraiment du dogme.
Vous pensez que ce chef d'État et ce gouvernement sont dans le dogme de la route et du bus et qu'il y a un choix à la fois technique, technologique, idéologique, économique?
Ils sont sur un dogme libéral de faire le plus de fric possible et de permettre aux entreprises de faire le plus de fric possible. C'est comme ça. On est dans un système capitaliste qui n'arrête pas de vouloir faire. D'ailleurs, ce matin, sur France Inter, il y avait Gattaz. On y posait la question s'il trouvait que c'était normal que les patrons en 15 millions, alors qu'ils ont coulé les boîtes, etc. Là, d'un coup, ils trouvaient plus ou moins normal de récompenser ceux qui ont fait des efforts. Voilà. Donc, on voit bien qu'on est sur un dogme. On est réellement sur le dogme. Parce que, par exemple, les bus Macron, on les a mis pourquoi ? On les a mis parce que dans le même temps où on a mis les bus Macron, on avait comme projet de supprimer les trains d'équilibre du territoire qui permettaient aux plus démunis de pouvoir se déplacer quelle que soit la situation et la partie du territoire. Et donc, on a mis les bus Macron pour permettre aux gens des plus démunis, etc., de continuer à voyager pour pas cher. Sauf qu'on va pas se faire de dessin. Quand vous partez de Lille en bus ou quand vous partez en train, y en a un qui va gagner du temps. Et l'autre, il va en perdre du temps. Donc, on est bien sur des dogmes. D'ailleurs, les bus Macron, depuis qu'ils ont été mis en place, comme y compris l'ouverture à concurrence du fret, ça a contribué à l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc, il y a même une question environnementale qui n'est pas prise en compte. Un État devrait, en même temps qu'il prend des décisions de réforme économique, etc., en même temps prendre la question environnementale. Et là, c'est pas pris. On est bien d'accord que le bus pollue plus que le train.
Et pourtant, Renaud Muselier, dans son projet ferroviaire, si j'ose dire, a dit, aux heures creuses, on fera des transports par car. C'est une déclaration récente de Renaud Muselier.
Il peut faire cette proposition, sauf que ce serait quand même méconnaître la configuration de la région. Pour être très clair, aujourd'hui, l'ensemble des autoroutes aux alentours de Marseille, mais même au-delà, est largement saturé. Rajouter des bus sur les autoroutes, c'est quand même quelque part avoir un illogisme de réflexion qui pousse à mettre plus d'automobiles, plus de véhicules sur des autoroutes qui sont déjà saturés. Enfin, je veux dire, où est la logique, où est le service rendu à l'utilisateur? Il n'y a aucun service rendu.
Alors, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, je ne sais pas s'il fait partie des enjeux actuels, c'est TGV. Alors, quand on parle de dette, souvent on dit que c'est ce programme-là qui a plombé la SNCF. Si on régionalise le dossier, il y avait ce fameux projet de LGV qui est plus ou moins enterré. On parle maintenant de ligne nouvelle PACA, mais à des horizons très lointains. Mmh. Votre avis sur cette affaire du TGV, est-ce que c'était pertinent? Est-ce que c'est à la fois un outil technologique performant ou un service performant, ou alors des erreurs stratégiques dans la gestion de l'entreprise?
D'ailleurs, sur la question de la LGV, il faut regarder les premiers projets, pas les projets qui ont été discutés, démontés, etc., où on a fait du bricolage. Le premier projet de la LGV, enfin, une fois qu'il a été élaboré.
La ligne grande vitesse qui devait aller jusqu'à Nice.
Qui devait aller jusqu'à Nice. Avec ce projet-là, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, la CGT, sur la LGV, pendant longtemps, la CGT s'est pas exprimée parce qu'il y avait des débats sur les tracés, etc. Mais une fois que le projet est tombé sur la table, le projet comprenait un maillage pertinent du territoire et qui nous faisait rattraper ces 30 ans de retard sur la question du transport collectif. Il y avait un maillage cohérent à la fois avec du bus, avec du TER et avec la ligne à grande vitesse. C'était vraiment, on connectait le territoire d'une manière pertinente en connectant les deux métropoles. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on regarde un petit peu la logique qui s'est construite avec l'abandon du train d'équilibre du territoire, les trains de nuit, la nouvelle offre TGV, parce que pour la rendre plus pertinente, etc., on a enclavé la Côte d'Azur à certains horaires. Donc on est vraiment là sur le fait qu'on est sur un dogme. C'est vraiment là ce qui nous fait dire qu'on est sur un dogme, parce que la connexion des deux métropoles d'un point de vue politique, tout le monde dit qu'il faut connecter les grandes métropoles entre elles, etc. D'ailleurs, on voudrait abandonner certains pans pour plus axer là-dessus. Eh ben, même là, avec leur logique, on se retrouve avec de l'enclavement.
Frédéric Michel, le TGV, on parlait de TGV, c'est ce qui a en partie plombé la SNCF. Chaque élu important de région voulait sa ligne à grande vitesse. Il y a même un responsable de chez vous, Éric Meyer Sud, qui lui, à propos de la dette en général de la SNCF, parlait que cette dette était le résultat de 35 ans de politique publique des transports conduite par l'État et même de clientélisme territorial. Là, on est en plein temps, quand même.
Ah bah, je crois qu'on est en plein dedans, hein. Mais le sujet quand même central sur cette question-là, encore une fois, c'est celui du financement du système ferroviaire. Effectivement, je suis plutôt d'accord avec Éric Meyer, mais bon, ça c'est plutôt bon signe. Il y a eu un déséquilibre flagrant entre les sommes qui ont été allouées au TGV et au LGV, donc aux lignes grande vitesse, avec effectivement des systèmes clientélistes où chacun voulait que le TGV arrive dans sa ville, sans un plan de financement clairement établi, avec une dépréciation du réseau classique, parce que la force, en fait, du réseau ferroviaire, c'est quoi? C'est le maillage. Ça sert à rien de faire un trajet en TGV très rapide, etc. Si une fois qu'on arrive sur la première correspondance, il faut attendre 2 heures, qu'il n'y a pas de train, s'il y a un bus, ou s'il faut finir en blablacar, quoi. En fait, la force du réseau ferroviaire, c'est un maillage. Donc, il doit y avoir une complémentarité entre le TGV, et nous, on est plutôt pour le TGV, hein, y compris, très sincèrement, ça nous choquerait pas si demain, au niveau national, on abandonnait le modèle aérien pour aller vers un modèle 100% ferroviaire. Donc ça veut dire qu'on n'est pas contre le TGV. Mais on est simplement sur une complémentarité de différents modes, et on en revient en fait à la question du financement. Pourquoi Monsieur Muselier réagit comme ça? C'est-à-dire en voulant passer des appels d'offres, trouver moins cher partout. Ben, d'abord, c'est parce qu'il manque de moyens, et l'État a transféré aux régions l'organisation des transports des TER, des transports régionaux, mais sans le financement. Donc aujourd'hui, comment il réagit, Monsieur Muselier? Eh bien, il réagit en fait en tant que gestionnaire, mais surtout du point de vue de ses électeurs. C'est-à-dire qu'il ne réagit pas en fonction de la question qui est posée, le développement d'un mode de transport utile à la collectivité, il réagit en disant je vais annoncer à mes électeurs, alors peut-être qu'ils prennent un peu moins le train que d'autres, mais je vais leur annoncer qu'on a fait 30, 40, 50 millions d'économies sur la SNCF en ayant recours au privé. Et du coup, il va satisfaire son électorat en faisant ces réductions. Mais il ne pense pas intérêt général, il ne pense pas intérêt de la collectivité. Il est lui aussi sur une clientèle. Voilà. Et le problème, pour finir là-dessus, c'est qu'on est y compris... pour le ferroviaire, on parlait de complémentarité TGV, TER, etc. Mais il pourrait y avoir une complémentarité bien pensée aussi avec le mode du bus, parce qu'évidemment, le train peut pas arriver partout, comme les trains de fret ne peuvent pas arriver partout, hein, même s'ils arrivaient dans plein d'endroits et que ça a été supprimé. Il peut y avoir une complémentarité entre le mode bus et le mode camion. Mais cette complémentarité, elle ne doit pas se faire sur le mode de la rentabilité. Elle doit se faire sur le mode du service rendu. C'est ça. Et on en revient donc à cette question du financement. Tant qu'on n'aura pas de financement, il y aura des mauvaises solutions.
Stéphane Crespin, puisqu'on est toujours dans le dur et dans cette grève, 20 millions d'euros par jour, c'est ce qu'a annoncé Guillaume Pepy, c'est le coût de cette grève. Alors ça vous incite à aller vite, ça vous incite aussi à dire au gouvernement, allez vite vous aussi, non ?
Enfin, ça nous incite surtout à la réflexion, parce que 20 millions par jour multiplié par le nombre de jours dans l'année, on est très au-delà du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc bon,
ça nous incite
quand même à la réflexion globale. Bon, mais au-delà du chiffre annoncé, il y a forcément des pertes, mais quelque part aujourd'hui, c'est pas ce qui nous anime. Nous, ce qui nous anime, c'est un vrai financement pérenne, à la fois de la dette, mais surtout un refinancement de l'infrastructure pour avoir un système ferroviaire qui soit fiable. Donc j'allais dire non, c'est pas quelque chose qui nous perturbe. Voilà.
Il y a eu, alors c'était décembre dernier, la fermeture de d'un train de nuit, hein, le Paris-Nice, et c'était le dernier, je crois, dans la région, à circuler. Je me trompe peut-être, mais je crois pas.
Il en reste le Paris-Briançon.
D'accord, il en reste. On parle aussi de 14 000 km de lignes menacées. Ce chiffre est juste. Est-ce que vous êtes inquiet par cette perspective ou paraît réelle, cette menace réelle, en particulier si le gouvernement va jusqu'au bout de ses intentions, ou est-ce que vous avez des solutions face à ça?
C'est 9000 km de ligne qui...
Ça, c'est le rapport Spinetta. Hein.
Voilà, ça, dans le rapport Spinetta. Mais ça peut être beaucoup plus si on confie aux régions la régénération, le maintien de ces lignes. Forcément, ils vont faire des choix. Puis, si vous êtes sur une région riche qui se développe, qui a du tourisme, etc., et que vous avez des financements pour les assurer, ça va aller. Mais si vous êtes une petite, une région un peu retirée, rurale, comme dans le centre de la France ou dans d'autres régions un peu rurales, forcément, il y a les conseils régionaux, ils vont faire des choix. Et puis, quand ils vont faire des choix, ils vont supprimer des lignes. On va pas se faire de dessin, bien entendu. Ça sera des effets induits, pas immédiats. D'ailleurs, c'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui dit on ferme pas 9000 km depuis Paris. Donc, on voit bien que derrière, en les confiant aux régions, ils ont l'intention de les fermer.
Alors la SNCF, la direction de la SNCF menace de ne pas payer les jours de repos de ceux qui font grève. Vous êtes tous concernés, enfin vous déclarez tous grévistes quand même, vous êtes responsables syndicaux et grévistes. Donc la direction menace de ne pas payer les jours de repos de ceux qui font grève. La CFDT, qui n'est pas présente aujourd'hui, cheminots, porte plainte. Vous en pensez quoi?
Écoutez,
ça favorise pas trop le dialogue, ça, quand même.
Voilà, surtout qu'en fait, la volonté de retirer les jours de repos, c'est un calcul savant de retenue de grève. Donc, c'est une interprétation de la direction. Ils interprètent les textes et à partir de l'interprétation qu'ils font des textes et du mouvement, ils vont décider d'enlever des jours de repos. Et si ça se trouve, au final, ils ne lèveront pas parce qu'ils savent très bien qu'ils perdront juridiquement. Mais en attendant, ils veulent faire peser sur la tête des grévistes la facture pour qu'ils arrêtent de faire la grève. Mais sauf qu'on a dépassé tout cela.
Alors, les ordonnances du gouvernement d'un côté, la menace de ne pas payer les jours de repos de l'autre, ça laisse pas beaucoup de marge aux cheminots, tout ça?
Mais écoutez, les cheminots, c'est pour ça qu'ils sont ancrés dans la lutte telle qu'ils se sont ancrés et qu'ils en mesurent tous les enjeux. Même y compris, plutôt que d'affaiblir, les cheminots se galvanisent autour de l'action, et y compris à long terme.
On approche de la fin de l'émission. Le 17 avril, la réforme ferroviaire a été, alors je suis désolé, hein, j'utilise la terminologie gouvernementale, a été adoptée par l'Assemblée nationale.
Elle a été adoptée en première lecture.
Maintenant, 29 mai, le Sénat. Alors je vais faire un mauvais jeu de mots, mais comment on arrête un train en marche législatif comme ça avec effectivement les ordonnances, une majorité écrasante en marche, majorité absolue.
Le CPE. La loi a été votée, les décrets n'ont jamais été publiés, donc du coup la loi ne s'est pas appliquée.
Vous restez optimiste sur votre capacité à faire plier ce gouvernement qui semble avoir fait de ce dossier quelque chose de très essentiel par rapport à sa gouvernance et à son mandat.
Non mais c'est certain. Alors c'est certain qu'il en a fait un marqueur très important, hein, ce qui nous a fait des fois prendre l'image de pas se sentir cheminot face à Emmanuel Macron, mais de plutôt se sentir mineur anglais face à Margaret Thatcher, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même un peu de ça. C'est-à-dire qu'au-delà, il y a la question du service public ferroviaire, la question des cheminots, et à travers la question des cheminots, c'est pas que le statut. Les cheminots, je pense, pour ce gouvernement, sont clairement identifiés comme une classe dangereuse qu'il va falloir mettre au pas. Et si on met au pas cette classe dangereuse, et ben derrière, ça va faciliter effectivement, pour utiliser une terminologie gouvernementale, les réformes à venir, c'est-à-dire suppression du statut de la fonction publique, casse du système de retraite par répartition, parce que c'est bien ça dont il s'agit, et du régime spéciaux et du système par répartition dans pas longtemps. Donc, pour conclure, enfin moi, je dirais volontiers, les cheminots, ils ont compris les enjeux de la grève. On n'est pas sur une grève classique, entre guillemets, comme on a pu avoir en 2014 ou en 2016, où les enjeux étaient profonds et sérieux, mais il y avait quand même des portes de sortie. Là, il n'y en a pas. On est sur une grève de survie. Donc les cheminots ont compris ça, ils sont déterminés. Il y a évidemment, comme toute grève qui dure, un petit tassement à certains endroits de chiffres de grévistes, mais les cheminots sont déterminés qu'on jouait notre survie là-dedans, nous, les cheminots, mais le service public ferroviaire tel qu'on le veut. Un modèle social aussi, parce qu'effectivement, si on perd demain, ça va être beaucoup plus facile dans la casse du système. Donc, oui, on est confiant. On est confiant parce qu'effectivement, on pense qu'on va gagner. Et on pense qu'effectivement, c'est dur, parce que si le gouvernement perd, il va perdre beaucoup.
Frédéric Michel, toujours sur cette réforme de la SNCF, enfin, casse ou réforme, c'est un ballon d'essai pour l'année prochaine, la réforme des retraites. Le gouvernement teste les capacités de résistance, selon vous ?
Bah, le gouvernement fonctionne comme ça depuis le début, hein, depuis les ordonnances, avec les débats engagés sur la protection sociale, enfin les APL, ce qui était par rapport à la CSG. Là, on est dans la séquence des cheminots. Dans pas longtemps, ce sera encore quelqu'un d'autre. La méthode du gouvernement, c'est une forme de guerre éclair. Hein, c'est-à-dire, ça joue à la fois sur la sidération, parce qu'il tape sur tout le monde, il change vite de cible, il tape sur tout le monde, et il joue aussi sur la résignation. On tape sur tout le monde, comment c'est possible de se battre? Donc c'est un gros pari que fait le gouvernement. Et ben nous, on en fait un autre de pari. On pense qu'à force de taper sur tout le monde, il y a des réelles capacités que ce tout le monde-là prenne conscience de la menace, prenne conscience qu'on a envie d'une autre société que celle que le gouvernement Macron nous promet, qui est entre guillemets, enfin quand même très proche de celle qui est aux États-Unis, hein, la proximité Trump-Macron, je pense que ça veut dire ça aussi, hein, c'est que la société à laquelle il aspire, c'est plutôt les États-Unis que ce qu'on vit depuis la libération ici. Donc oui, effectivement, le gouvernement joue gros, nous on joue effectivement très gros, mais il y a une montée, une conscientisation de se dire que c'est maintenant qu'il faut que ça coagule, que ça cristallise, on appelle ça comme on veut, mais qu'il y ait une vraie convergence des luttes pour s'opposer à ce gouvernement. C'est pour ça que c'est effectivement une grève qui est très sérieuse et qui ne concerne pas que les cheminots.
Stéphane Crespin, vous partagez aussi cette analyse selon laquelle, finalement, au-delà du fond du dossier, le rail, etc., ce gouvernement considère les cheminots comme un îlot de résistance, en fait, et donc dangereux, donc à faire plier, pour des raisons politiques aussi, de stratégie politique.
Oui, je crois qu'on est vraiment, on le disait tout à l'heure, mais dans la position dogmatique. Pour l'UNSA ferroviaire, il y a plusieurs éléments. On n'a pas à rougir, je pense, du taux de grévistes. Quand on l'observe de façon un peu plus fine, on s'aperçoit que l'encadrement est fortement en grève aujourd'hui, ce qui signifie en général que les enjeux sont plutôt bien compris. Donc, globalement, oui, il y a un vrai bras de fer réalisé avec le gouvernement.
Alors François Tégédor, printemps social, peut-être été social, on rentre au mois de mai qui est un véritable viaduc avec plein de jours fériés.
Oui, on rentre dans ce viaduc, mais je crois que comme les consensus sont là, ce viaduc va nous porter vers la victoire d'un vrai service public et d'un vrai débat autour de ça.
Dernière question, mais très très rapidement à tous les trois, optimistes pour que la grève s'arrête avant l'été ? Et que le gouvernement accède à vos revendications ?
Optimiste pour qu'on gagne le plus rapidement possible, oui, oui.
Bien évidemment.
Oui. Sinon, c'est le gouvernement qui rentre dans une certaine folie.
Allez, on vous remercie, on se retrouve le mois prochain, bye.